Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon Luc sur le fils prodigue. On pourrait dire cette famille en désaccord. Cette famille qui se détruit jusqu'à perdre un enfant. Cette histoire est une des plus belles de la Bible parce qu'elle résume toute notre histoire avec Dieu. Alors je fais la lecture qui est sur la petite feuille que nous vous avons remise. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » « Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Amen. » Je prie le Seigneur sur ce texte et sur nos vies. Fais-nous revenir, Seigneur, et nous reviendrons. Parce que nous sommes égarés, éloignés de toi, la source de vie. Nous avons creusé dans nos vies des citernes qui ne retiennent pas l'eau, alors que tu étais la source intarissable à côté de nous, et nous n'avons pas voulu de toi. Pardonne-nous et fais-nous revenir, afin que nous soyons dans la joie avec nos frères et avec toi. Merci pour ton évangile de ce jour. Dans ce temps de carême, nous allons vers toi. Amen. L'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire de votre maison. C'est l'histoire de l'humanité avec Dieu. C'est l'histoire de Dieu dans l'humanité. C'est l'histoire de l'amour de Dieu. Un père avait deux fils, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dimanche. Il y a des CD qui sont enregistrés tout au long de ces conférences et qui sont disponibles. Il avait deux fils. On peut avoir deux fils, sans être père de deux fils. On peut avoir des enfants sans être vraiment comme un père, comme une mère. Et vous savez l'histoire de ce prodigue, de ce cadet de la maison qui demande à son père un beau jour, comme cela, d'une manière un peu violente, « Mon père, donne-moi la part de bien », c'est-à-dire, tout simplement, passons devant le notaire, séparons l'héritage, donne-moi ma part et je m'en vais définitivement. Le père, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, leur partagea son bien. sans discuter, sans poser de questions, sans chercher à retenir son fils qui partait pour toujours. Un fils qu'il aime plus que tout. Et le Père leur partage tout son bien. Alors, on m'a dit, c'est la faute du Père. Il aurait dû être plus sévère. C'est une erreur du Père. C'est la faiblesse du Père. Mais quand le Fils revient, encore le Père ne parle pas au Fils. On a l'impression qu'il y a comme une faiblesse. Il ne parle pas à son Fils, alors que dans une relation de famille, d'amour, d'église, la parole est essentielle pour la relation. Sans parole, il n'y a pas la vie. Et quand le prodigue revient de sa cavale, où il a mangé de la vache enragée, si je peux dire, eh bien, le Père ne lui dit rien, comme si le Père ne voulait pas lui apporter une humiliation supplémentaire, au risque à nouveau de perdre son fils. Parce que parfois, les retours sont tellement fragiles que on ne veut que rien ne s'aggrave. Alors le Père ne dit rien. Le Père ne vide pas son sac, comme on dit, devant cet enfant qui a un toupet monstre. Je ne me vois pas dire cela à mon Père. Le Père s'est-il montré trop faible, impuissant devant son fils qui peut-être cherchait des limites? Les enfants ont besoin qu'on leur dise « Stop, ça suffit, là ça va pas, là ça va. » Est-ce que son fils, en disant « Donne-moi la part de bien », est-ce qu'il a été là impulsif? Alors que peut-être ce n'était pas une décision bien mûre. Parfois on a des coups de tête, des coups de cœur. On ne sait pas. On imagine, parce que c'est une histoire humaine, et on peut imaginer toute notre histoire dans la parabole. Le prodigue, lui, qui en a voulu à son père, il ne fait rien pour rester, et le père ne cherche pas à le retenir. Dans un film d'amour, enfin un beau film, hein, je ne regarde pas des films d'amour, il y avait cette scène entre un homme et une femme qui étaient sur le point de se quitter. « Si tu m'avais aimé, je t'aurais aimé. » Et l'autre a dit « Eh bien moi, si tu m'avais aimé, je t'aurais aimé aussi. » Donc on ne se comprend pas. Et le père et le fils sont dans un dialogue de sourds. Le fils prodigue ne s'est pas attendu à cette réaction. Peut-être qu'il avait pensé que le père aurait montré de la résistance. Mais pour qui tu te prends? Reste là. Peut-être que si le père s'était montré résistant, le père et le fils se seraient battus. J'ai connu des enfants qui se sont battus avec leur père. Mais peut-être aussi que le fils se serait construit en disant, mais enfin, mais je suis bête. J'ai tout ici à la maison, pourquoi je vais dévaliser mon père? Enfin, le temps a passé, et avec les années, parfois, on oublie ces désagréments. Mais en fait, nous n'oublions jamais. Et le pardon, c'est justement de ne pas oublier. Pour que nous puissions accepter la réalité du mal et dépasser le mal. Le pardon, c'est pas dire « mais il n'y a rien eu ». Mais non, il n'y a rien eu. Non, il y a eu quelque chose, mais on dépasse, on va plus loin que le mal. Quelqu'un a dit, la souffrance, c'est comme un petit grain de sable qui rentre dans l'huître. Vous savez ce que ça veut dire? Et ce petit grain de sable, il peut créer une perle magnifique. Et je pense qu'à travers les difficultés de l'existence, qui sont parfois comme des grains de sable, avec l'aide de Dieu, il peut en sortir une perle magnifique. Alors, on revient au Père. Peut-on reprocher à ce Père d'aimer son enfant jusqu'au point de lui le laisser tout seul? Parfois, il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants qu'ils laissent tout. De le laisser partir tout seul sur les routes au risque de se perdre pour toujours. Quel reproche peut-on faire au Père? Parce que le Père n'ignorait pas que le Fils allait souffrir. Je souhaite à personne de voir qu'un père ou une mère voit un fils partir, une fille. Ce fils allait souffrir, se mettre en danger, risquer la mort psychologique, la mort physique, la mort spirituelle. C'était très risqué. Malgré le bonheur qu'il a eu au début avec ses amis, ses copains et ses copines, la vie peut déborder d'activité, elle peut déborder d'expérience, mais à l'intérieur de nous, dans un lieu profond qui est en nous, il y a toujours une solitude immense. Et le Père, quand il a vu partir le Fils sur le chemin vers la campagne, eh bien, il a dû dire, la solitude, la détresse sont devant lui. Pouvait-il faire autrement? Pouvait-il garder son fils sous la contrainte? Le tenir attaché? Je crois que cela n'aurait pas été digne de l'amour du Père, de tenir cet enfant attaché à la maison. Même si le Père ne savait pas, on le lit dans la parabole, il ne sait pas beaucoup extérioriser son amour. Il ne dit pas à son fils tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il n'extériorise pas, mais il ne pouvait pas faire autrement. Ce père donc partage son bien entre les deux fils pour permettre au plus jeune de partir. Le père cède. Le père cède. Mais vous le savez, le Père aussi le sait, le bonheur ne dépend pas de ce que nous faisons. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons. Nous valons plus que ce que nous avons, nous valons plus que ce que nous faisons. La vie d'un homme, disait Jésus, ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Au fait, qu'a pensé le fils aîné? Vous vous êtes posé la question? Qu'a-t-il ressenti devant la faiblesse de son père et la violence de son frère? A-t-il été consulté? Le père lui a-t-il dit, écoute mon fils, ton petit frère, il veut partir, il faut qu'on partage la ferme, il faut qu'on partage tout, je ne sais pas. Est-ce que le père a imaginé la réaction du fils aîné? On peut supposer que le père a décidé tout seul. Il avait le droit, en qualité de père à cette époque, il prenait les décisions seul. Mais le père s'est-il rendu compte qu'après le partage des biens, le père n'a plus rien? Il est dépouillé. Et il passe sous la coupe du fils aîné qui a tout. Il se dépouille. Il passe sous la volonté de son fils aîné qui maintenant a la part. Pour le moment, on voit le fils cadet, le petit, partir. Et certainement que le père est dans la peine et que chaque jour il pensera à son fils sans jamais savoir ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive. Il peut imaginer le pire, Mais je crois qu'au fond de lui-même, parce que c'est le sens de la parabole, il gardera tout au fond de son cœur un espoir insensé, un espoir fou. Le revoir un jour vivant. Espoir fou. Et cet espoir, il est partagé par des parents qui ont perdu des enfants, partis pour la Syrie ou l'Irak. Revoir un jour les enfants. L'amour espère tout. L'amour espère tout. Le Père l'aime toujours. Nous sommes aimés de Dieu indépendamment du bien que nous faisons et du mal que nous faisons. Dieu n'attend ni le bien ni le mal pour nous aimer, puisqu'il nous a aimés avant qu'on fasse le bien et avant qu'on fasse le mal. Jésus a pris dans cette histoire une magnifique image humaine, une famille en désaccord, en trouble, pour nous montrer l'amour inconditionnel de Dieu, qui nous offre la liberté et qui est conscient de notre souffrance, qui en souffre lui-même et qui nous attend. Le Père ne dit pas « va-t'en, puisque c'est comme ça ». Je t'aime plus, tu es un mauvais fils, tu ne vaux rien, pas du tout. Parlons du Père. Soudain, un matin, le moment est arrivé, il voit au bout du chemin le fils revenir. Vous imaginez la joie et l'appréhension? L'appréhension parce que dans quel état est-il ce fils? Avoir un fils à une table, c'est bien, mais il peut être très mal, malade, mourant, en colère. Appréhension parce que est-ce qu'il va pouvoir renouer avec lui une vraie relation? Et dans quel état était la relation avant? Comment ça va être maintenant? Vivre sous un même toit, ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein, même si on est dans la même pièce. Comme il était encore loin, le fils, son père l'a vu. Il a couru vers lui et il l'a couvert de baisers. Il l'a embrassé. Il l'a serré dans ses bras. Le père qui aperçoit ce petit méconnaissable parce qu'il est misérable, mais il le voit avec les yeux de son cœur, des yeux qui peut-être pendant des années ont regardé le bout du chemin. Quand viendra-t-il? Ce soir. Ce soir, c'est sûr. On a vu quelques images de ce film, de ce chien qui a perdu son maître et qui tous les jours va à la gare attendre son maître. Tous les jours, pendant des années. Moi, je pense qu'un père peut faire beaucoup plus, non? Et je pense que Dieu fait infiniment plus. C'est son cœur qui voit la détresse. Et c'est pourquoi il est dit, il fut ému aux entrailles. C'est la belle traduction. Il a été ému, on dit, jusque dans ses tripes, jusque dans son corps, dans son cœur. Parce que pour lui, rien d'autre ne comptait. Il attendait, il était comme en gestation de ce fils. Et quand ce fils revient, c'est la naissance. C'est un nouveau départ. Le père attend, comme la femme enceinte, qui n'est jamais sûre de rien. La femme enceinte, qui n'est jamais sûr, et le père devait se dire quand même, je l'attends, mais peut-être que demain on me l'amènera mort, peut-être qu'on m'apprendra la triste nouvelle. Mais il attend. L'amour est une attente. Avons-nous désappris l'attente dans l'amour? Qui peut attendre mieux qu'une mère? On ne parle pas de la mère dans l'histoire, mais on peut penser qu'il y a une mère là dans l'ombre, du tableau de Rembrandt. Je vous ferai un jour une prédication uniquement sur le tableau de Rembrandt, ce peintre protestant du 15e siècle, je ne sais plus, au 16e, qui a peint le retour du fils prodigue avec des détails absolument sensationnels. J'aimerais un jour vous en parler, mais je ne vais pas faire venir le fils prodigue de Moscou, non, de Saint-Pétersbourg. La mère attend, avant la naissance, elle attend. Quand l'enfant est né, elle attend que l'enfant se réveille. Elle attend que l'enfant s'endorme, marche, parle, travaille. Elle attend que l'enfant se marie. Elle attend que l'enfant passe à la maison un jour, non ? Elle attend que l'enfant passe un petit coup de fil, tout petit, un dimanche soir, là. Elle attend toujours la mère. L'amour, c'est attente. Mais la silhouette est à l'horizon. Je reviens à mon fils prodigue et à son père. Le martyre du père est achevé. On ne s'imagine pas quel martyre les parents peuvent subir, souffrir. Le père est bouleversé. Il semble que lui, la vie commence pour lui. Le père ressent, il fut ému dans les entrailles, ça veut dire qu'il ressent en lui une miséricorde, une compassion, un amour, une bonté, une tendresse, une douceur qu'il va communiquer à son fils par des gestes, le prend dans ses bras. Il va redonner la vie à cet enfant. Ce que vivre, c'est pas seulement respirer et manger, c'est être aimé. Et c'est aimer et pardonner. Ainsi est Dieu. Ainsi est Dieu. Avant qu'aucun être humain ne nous aime, avant que l'on soit né, avant que l'on existe, Dieu nous aimait tendrement et il avait prévu pour nous toutes choses. Quel geste magnifique! Il embrasse son enfant. L'impression que le père porte l'enfant. Il remonte l'enfant de la fosse, de la boue. Le jeune homme ne doit plus tenir debout. Il n'a pas mangé. On le fait travailler sans manger, sans boire, sans lui donner d'argent, rien. Le père le serre dans ses bras comme s'il le remontait dans une résurrection. Après la descente aux enfers, le Fils remonte. Après nos descentes aux enfers, l'amour de Dieu nous remonte. Le cœur du Fils meurt, rencontre le cœur du Père en agonie. C'est un cœur à cœur, ce qui est très beau. Il faut parfois connaître la profonde misère pour avoir du cœur, pour retrouver du cœur. Il faut une patience qui sait attendre, une patience qui écoute pour retrouver un vrai dialogue. Il faut savoir attendre pour retrouver l'autre, pour être accepté d'être aimé, pour accepter de s'aimer. Ainsi, mes amis, Dieu nous attend. Dieu ne dit rien. On ne l'entend pas crier dans les rues, il n'élève pas la voix dans les rues de Rennes. Mais il attend. Il espère. Il veut nous trouver, non pas parce qu'il a un besoin pour lui-même, mais parce qu'il nous aime. Il n'a pas un besoin affectif, mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas vivre sans nous. Et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Dieu, comme dans la parabole, court vers nous. Il se jette à notre cou. Et la vie est dans cet accueil mutuel du Père et du Fils, de Dieu et de vous et de moi. Je suis aimé de Dieu, vous êtes aimé de Dieu. même si nous faisons des erreurs. Dieu ne se moque pas de nous quand nous avons échoué, quand nous sommes incapables de réussir par nous-mêmes. Dieu ne se moque pas de personne. À l'instant où il le voit arriver, je reviens au Père, il court vers cet enfant, oubliant que la convenance de cette époque voulait que un homme qui se respecte ne court jamais. Courir comme Zachée qui court devant Jésus, c'était pas très beau, pas très bien. Il court. Regardez la miséricorde divine qu'on voit en Jésus dans les évangiles. Dès qu'il voit un souffrant, dès qu'il voit un aveugle, un lépreux, dès qu'il voit un enfant qui va mourir ou qui est mort, le Seigneur est ému jusqu'aux larmes, au plus profond de lui-même, et il se déplace à chaque fois pour aller poser ses mains sur les malades, sur les mourants, sur les morts. C'est quelqu'un qui s'occupe de nous à plein temps, jour et nuit. C'est le Seigneur Jésus qui est Dieu fait homme. Vite, apportez vite la plus belle robe. Le Père a dû remarquer les haillons souillés du Fils, qui vient vers son Père comme un mendiant. Il a dû remarquer ses mains abîmées, ses pieds abîmés, son cœur abîmé, son visage abîmé, buriné. Ceux qui dorment dehors sont travaillés dans leur corps, dans leur chair, travaillés. C'est un mendiant honteux qui s'agenouille devant le Père, attendant tout de son Père. Mais il n'a même pas le temps de prononcer ses paroles, son petit catéchisme, « Traite-moi comme un ouvrier », il n'a même pas le temps de dire cela. Le Père l'accueille, sans rééducation, sans dommages et intérêts, sans faire 2 ans de prison. Le Père l'accueille sans qu'il fasse ses preuves, sans qu'il fasse des œuvres pour compenser, pour rattraper les dégâts familiaux. Le Père ne veut pas que son fils reste 1 minute de plus dans cet état-là. Immédiatement, dès que le Père le prend, il le met dans la position juste pour un fils. Martin Luther dirait aujourd'hui, il a justifié son fils. Il l'a mis dans une position juste, sans que le fils paye, prouve, fasse quelque chose, dise quelque chose, pense quelque chose. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous met dans une position juste. Il nous redonne une apparence humaine réel, une renaissance, une relation, des épousailles, un mariage, il y a un anneau, il y a la belle robe, c'est un mariage avec le Père et le Fils. Le Fils s'attendait à être critiqué. Mauvais garçon, t'as fait de la peine à ta mère, de la peine à ton frère. Il s'attendait peut-être à être giflé, critiqué, mis au rang des salariés. Autrefois, les salariés, c'était les gens dans le bas de la société. Maintenant, quand on est salarié avec un CDI, on est très content. On est en haut. Avant, les salariés, c'était tous en bas. C'était des étrangers. C'était des gens dans le bas de l'échelle. Alors, traite-moi comme un inférieur. Le Seigneur nous laisse partir comme on veut. Regardez, et il nous accueille avec tendresse quand on revient. Il aurait pu mettre un barrage sur la route, il aurait pu dire à ses employés, vous allez lui tendre un piège pour qu'il revienne. Il laisse aller, il m'a laissé aller, il vous laisse aller. Et il nous accueille quand on revient. Et il dit à ses serviteurs de se mettre au service du Fils. Il dit de le se mettre au service de ce fils retrouvé. Il veut le recevoir comme un invité de marque. C'est un fils et pas n'importe qui. Le prodigue est dans les mains du Père. J'en ai parlé dimanche de ce geste de contact. Des mains aimantes, des mains fermes Mon fils est vivant. Mais qui commande ici à la maison? C'est le père ou c'est le fils? C'est le père. Mon fils est vivant. Mon fils que voici était mort et il est vivant. Mais papa, je voudrais... Mon fils est vivant. C'est le père qui commande. C'est le père qui nous a déclarés enfants de Dieu. Pas parce que nous avions mérité quelque chose, mais parce qu'il nous a aimés et nous avons reçu son amour. Mettez-lui des souliers aux pieds, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il a, dans le tableau de Rembrandt, il n'a même plus de chaussures, il n'a plus qu'une. Les esclaves étaient pieds nus, les ouvriers étaient pieds nus. Des souliers, c'était les riches, et ça évitait aux serpents de mordre. Eh bien, tout ça, c'est nous, mes amis, blessés par la vie, par le mal, imparfait, mais en un clin d'œil, en une fraction de seconde, tous ceux qui découvrent le Christ, Dieu les déclare enfants de Dieu, sans rien avoir à prouver ou à payer, gratuitement rendus justes. Dieu, avec une grande douleur, ne nous empêchera pas de partir. Mais Dieu, dans un grand bonheur, nous accueillera toujours. Le Père veut que son enfant se sente important. Pas un enfant de seconde zone. Pas un enfant qui n'est pas comme l'autre. Mais que son fils se sente pardonné, intégré, aimé. Lui qui peut-être dans le passé s'était senti rejeté, exclu, peut-être que son père ne faisait pas attention à lui, je ne sais pas. Eh bien, son père veut qu'il soit intégré comme l'enfant. Voyez quel amour le Père nous a aimés, dit l'apôtre Jean, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Le fils est blotti dans les bras du Père, c'est beau. Il ne sait pas encore que le dernier des derniers est le premier de tous pour Dieu. Le dernier des derniers est le premier de tous pour Dieu. Il élève les humbles, Magnificat. Il rassasie de bien les affamés. Il fait descendre les puissants de leur trône et il relève ceux qui sont tombés dans le fumier. Ça, c'est notre Seigneur, depuis toujours. Peut-être que le fils prodigue s'attendait à voir un père juge. Il se retrouve là devant un père, père, un peu comme une barque qui rentre au port, une barque qui s'est échouée, une barque qui a été désertée, une barque qui a été vidée de ses habitants, une barque qui est abîmée, mais infiniment accueillie, aimée, infiniment aimée. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'amour de Dieu. Amenez le veau gras. Oh, celui qui était prévu pour Noël. Et on n'est qu'au mois de février ou mars. C'est trop. Le fils prodigue a dû dire, c'est trop. Pour cela, tout cela pour moi qui ai fait des bêtises. Moi qui ai ruiné mon père, moi qui ai renié mon père, moi qui ai oublié mon père, moi qui ai mis mon père de côté, c'est trop. Est-ce que le père en fait trop, peut-être, oui, pour montrer son infinie miséricorde? Le père en fait beaucoup pour nous. Je ne sais pas si le fugueur, le prodigue, je ne sais pas s'il était prêt à être fêté comme ça. Moi, si j'étais parti de la maison de mes parents et que, à mon retour, c'était la fête, je crois que je n'aurais pas été très content. J'aurais dit, mais non, je vous en prie, je ne mérite pas ça. Oh, arrêtez, arrêtez. Le prodigue n'était pas prêt à être fêté. Mais le père, avec délicatesse, lui montre que oui, il est ruiné. Oui. Le fils prodigue a tout séparé. Oui, le père est anéanti. Mais il est capable d'organiser une petite fête de transformer le deuil en allégresse et de faire de son fils un fils aimé pour toujours dans la maison. Amen. Je conclus. Aucun retour à la vie, aucun retour à Dieu n'est impossible. Aussi bas que l'on tombe, aussi loin que l'on soit allé, tout retour vers Dieu, tout retour est possible. Dieu n'exclut personne. Jésus nous donne cette parabole pour nous montrer le chemin du pardon, et ça c'est bon pour les parents, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour chacun de nous. C'est par la rencontre que l'on guérit de ses souffrances et de ses péchés. Je conclus vraiment. Dieu attend chacun, espère. Ce n'est pas un Dieu cruel, ce n'est pas un Dieu, c'est un Dieu doux. Je suis humble, dit Jésus, et doux. Il n'est pas avare, mais il est généreux. Il aurait pu garder pour lui la création et ce magnifique palais qui nous attend dans le ciel. Notre chapelle à côté, elle ne fait pas le poids du tout. Au contraire, Dieu diffuse son amour, il sème son amour au-delà de lui, il sort de lui. Il met son amour dans son Fils, il met son amour en chacun. Il va au-delà de tout, il dépasse toutes les bornes, toutes les limites. Pardonnez-moi pour le carême, amenez le veau gras. Amenez le veau gras. Nous ne sommes pas très habitués à voir Dieu dans la Bible qui organise des grandes fêtes, qui organise des grands banquets. Pourtant, Jésus nous parle dans la Bible du banquet du ciel. Vous le savez ? Du repas du ciel. Parce que Dieu veut partager tout ce qu'il a avec nous. Dites-moi, mes amis, allons-nous laisser les ombres de la vie nous dominer, alors qu'un amour si grand nous ouvre les bras ? Allons-nous sortir enfin de nos récriminations, de nos murmures, de nos plaintes, de nos agressions ? Pour dire « Seigneur, tu nous as tout donné ». Je le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois, beaucoup sont paralysés par la peur de la punition de Dieu. Beaucoup sont paralysés par la peur de la punition de Dieu. Cette peur de Dieu est une des plus grandes tragédies humaines. Vous connaissez la première parole, une des premières paroles de Adam ? J'ai eu peur de toi et je me suis caché. Mais Dieu ne fait pas peur parce qu'il nous aime. Et puisque son amour est parfait, cet amour chasse la peur. Le Père ne nie pas les ténèbres, il ne dit pas « il n'y a rien », il reconnaît les ténèbres, mais il dit « la lumière chasse les ténèbres ». Le Père ne nie pas la mort, il dit « mon enfant était mort, mon enfant était perdu, mais mon amour transforme le désert en jardin, la tristesse en joie, la mort en vie ». Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Amen. Je prie le Seigneur pour vous quelques instants. Et que chacun de nous, vous et moi, puissions rejoindre la parabole du Fils prodigue. En quoi je me retrouve ? En quoi je vais m'accrocher à cette parabole pour tout ce temps jusqu'à Pâques ? Faisons tous des erreurs d'aiguillage des erreurs de jugement, des erreurs sur l'apparence. Regardez comme c'est beau, ce père, ce fils, cette famille. Faisons ce travail sur nous-mêmes. Dieu nous attire. Je prie. Seigneur, c'est toi qui es caché dans cette parabole. Le Père, c'est toi, admirable, avec des mains grandes ouvertes, un cœur ouvert, un ciel ouvert, avec un message ouvert et clair. Tu ne parles pas dans un lieu obscur. Tu te fais comprendre à tout être humain, si faible soit-il. Devant ce prodigue qui ne pouvait pas supporter de grands discours, de grandes paroles, le Père lui a montré la tendresse, le pardon, la vie. Tu fais la même chose avec nous. Fais-nous revenir de nos égarements, Seigneur, et fais-nous marcher vers toi et courir vers toi. Et merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous conduire vers le Père. Merci pour son amour. Amen.